Si on regarde du côté des esclaves maintenant, de l'autre côté de l'échelle sociale, il y a quelque chose de remarquable, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de musiciens dans les annonces de marronnage. Quand on regarde les annonces de marronnage, je peux vous montrer une page des affiches américaines telles qu'elles se présentent. Donc voici les affiches américaines que l'on trouve entre 1764, je vais essayer de grossir un tout petit peu, et 1791. Alors vous avez en haut l'arrivée des bateaux, vous avez ensuite les prix, et ensuite vous avez les annonces de marronnage. Donc nègre marron. Jean Fouchard a fait un travail extrêmement intéressant sur les marrons. Jean Fouchard est un historien à bien des égards tout à fait exceptionnel parce que dans le même temps qu'il écrivait trois livres sur les colons, il faisait Les Marrons de la Liberté et Les Marrons du Cylavert, qui sont des classiques. Et donc il a fait les deux aspects de Saint-Domingue. Et donc vous voyez ici les animaux trouvés et les esclaves trouvés, les nègres épaves, et ensuite les spectacles. Donc évidemment, à chaque fois qu'on est confronté à ça, se repose la question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire la coexistence des deux. Comment est-ce possible que dans cette société-là, il y ait les deux? Mais en fait, c'est sans doute une vision à courte vue, parce que sinon, on n'étudierait plus Platon ni Aristote, qui vivaient en Grèce, dans une société aussi esclavagiste. Et donc, les marrons, subsistent. Ils subsistent comment? Ils subsistent en se sauvant, bien sûr, et ils subsistent en employant leurs facultés, leurs capacités, pour être employés. D'où les déclarations de marrons musiciens. Les maîtres qui déclarent un esclave, le maître qui déclare un esclave marron en précisant il joue très bien du violon, ou bien il joue très bien du cor, etc., c'est parce qu'il sait que le marron qui s'est sauvé va éventuellement se servir de cela pour subsister, et pour dire qu'il est libre et se faire employer dans un orchestre. Alors c'est assez intéressant parce que ça signifie qu'il y avait comme cela une importance donnée à la musique. Et de fait, on connaît beaucoup plus donc de violonistes esclaves que de violonistes libres. On connaît beaucoup plus de violonistes noirs que de violonistes blancs. Et ce qui est troublant, c'est que dans cette proportion de marrons, on le voit à la façon dont les gens sont décrits. Julie sénégalaise. À partir du moment où il est marqué Julie sénégalaise, ça signifie que Julie est une femme née en Afrique. Sinon, il aurait été marqué Julie créole. Et dans les marrons musiciens, il y a 20% de personnes qui sont nées en Afrique. Donc il y a 20% au minimum de personnes qui sont nées en Afrique et qui sont devenues musiciens et qui ensuite sont dans les différents emplois possibles pour un musicien à cette époque-là. Alors il y a une chose intéressante que, par exemple, Frédéric Réjean a noté dans le gros corpus d'esclaves qu'il a compilé pour les années révolutionnaires pour la Guadeloupe, c'est que les musiciens sont des esclaves extrêmement chers sur le marché, si on peut dire. L'esclave le plus cher que Frédéric a trouvé, c'est un esclave qui porte un nom de musicien d'Europe et qui est le plus cher. Et c'était effectivement la constatation que j'ai faite. Il y a quelque chose d'intéressant à cela, qui dépasse largement le cas des individus. C'est que dans une colonie comme celle-ci, aucun blanc ne voudrait faire ce qu'un esclave peut faire à sa place. Donc c'est troublant. Comment se fait-il que des esclaves aient pu accéder à un statut de musicien? Eh bien, c'est parce que précisément les instrumentistes sont très dévalorisés. Les violonistes, c'est la piétaille de l'orchestre. Les gens valorisés, ce sont les chanteurs. Même pas les compositeurs, les chanteurs. Et donc les violonistes, si on trouve un esclave pour faire le travail à sa place, il n'y a pas de problème. Voici deux petites annonces que l'on a dans la presse à l'époque. Trois jeunes nègres à vendre, dont les deux plus grands jouent passablement du violon et lisent la musique assez bien sur toutes les clés indifféremment. Ils ont accompagné dans différents opéras qui se sont donnés depuis 2 ans au Cap, 1764. Et un autre, mise en vente de Julien, jeune griffe, 17-18 ans, violon alto, engagé jusqu'à Pâques, à la Comédie du Cap. Or, Julien, par ailleurs, en lisant les annonces de spectacle, il a joué en soliste des concertos et des symphonies concertantes. Donc voilà des individus qui ont une capacité, une maîtrise même, on pourrait dire, et le double sens est assez lourd dans ce cas-là, et finalement, ils passent on pourrait dire ça comme ça, à travers les mailles du filet. C'est-à-dire que les colons ne se rendent sans doute pas compte que là, il y a une forme de liberté, une certaine forme de liberté, et sans doute n'ont-ils pas bien pris conscience de ce que ça pouvait représenter symboliquement d'être un soliste.